Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série, notre deuxième série concernant l'enfer. J'ai fait, il y a de nombreuses années, déjà une série sur l'enfer, le ciel. Et je vous recommande vivement, si vous possédez Internet, moi je n'ai pas Internet, mais si vous possédez Internet, eh bien c'est de chercher à écouter le fameux témoignage hors du commun de Marietta. Si vous pouvez trouver cela, ça vous aidera beaucoup. Le titre que nous pourrions donner pour terminer cette série sur l'enfer, deuxième série, pourquoi je n'aurais pas fait ça? Pourquoi? Parce que je ne suis pas trois fois saint. Dieu déclare en Ésaïe chapitre 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Donc mes pensées ne sont pas vos pensées. Cela veut dire que nous pensons différemment. Il ne nous a pas demandé de chercher à comprendre ses motivations. Nous ne le pouvons pas. Nous en sommes incapables. Nos pensées sont bien inférieures aux siennes. N'allons pas croire que nous sommes autorisés sous prétexte que nous avons passé un peu de temps à méditer les mystères de l'univers, à remettre Dieu en question. Notre Dieu n'est pas une personne légèrement plus intelligente. Ses pensées sont infiniment plus élevées que les nôtres. Le fossé est aussi grand que cela, et nous le savons. Employons donc notre énergie à nous soumettre plutôt qu'à nous complaire en analyse démesurée. Bien des fois, vous ne le comprendrez pas, c'est normal. Non, c'est même prévu comme ça. Donc le fait que Dieu envoie des gens en enfer, cela n'est pas la seule chose impossible à concevoir. La Sainte Bible regorge d'actions divines qui n'ont pas beaucoup de sens à nos yeux, à premier abord. Pensez-y un peu. Déjà, tout au début, les gens sont devenus tellement mauvais que Dieu regrette de les avoir créés. Alors que fait-il? Il décide de sauver certains animaux et 8 êtres humains. Et il tue tout le reste. Mais il ne se contente pas de simplement de les tuer. Il les noie tous dans un gigantesque déluge. Genèse chapitre 6, jusqu'au chapitre 8. Oui, un déluge. C'est-à-dire qu'il noie carrément tout le monde. Si j'étais Dieu, je n'aurais pas fait ça. Plus tard, alors que Moïse se retrouve en haut d'une montagne, les Israélites, pendant ce temps, resté en contrebas, adore un veau d'or. quand Moïse redescend, l'Éternel ordonne aux Lévites d'aiguiser leurs épées et de parcourir le camp en massacrant leurs frères, leurs amis et leurs voisins. Exode chapitre 32, verset 27. 3000 personnes sont mortes ce jour-là, et les Lévites ont été bénis pour leur obéissance. Ils ne se sont pas arrêtés un seul instant pour déterminer si les voies du potier étaient justes ou non. Et des années plus tard, Dieu ordonne aux Israélites de massacrer tous les habitants de Canaan. Notez Deutéronome, chapitre 20, versets 16 à 18. Hommes, femmes et enfants, tous, sans exception, le Dieu plein de miséricorde ordonne à son peuple de ne pas faire de prisonniers, de tous les massacrer. Si j'étais Dieu, je n'aurais pas fait ça. Lors de la conquête de Canaan, un homme prénommé Achan dérobe quelques trésors de la ville de Jéricho. Il ment à ce sujet. Mais quand le Seigneur le déclare coupable, il confesse son péché et rend même les objets volés. Néanmoins, Achan et sa famille sont lapidés et tous ses biens, sa tente et tout ce qui lui appartient sont absolument détruits. Josué chapitre 7. Si j'étais Dieu, je n'aurais pas permis cela et j'en aurais encore moins donné l'ordre. Voyez-vous, le fait est là. L'Écriture sainte relate d'innombrables actions du Seigneur. Je parle de Dieu de l'éternité. Je parle d'El Shaddai. Je parle de Elohim, ou si vous voulez, Yahvé l'Éternel. Tout cela ne colle pas avec notre logique ou notre moralité. Mais ce n'est pas grave, car nous sommes d'argile et Dieu est le potier. Renonçons à nos tentatives d'apprivoiser Dieu ou de le confiner dans des catégories étroites. Ces catégories reflètent davantage nos sentiments humains que ces voies inexplicables. Nous servons un Dieu dont les voies sont impénétrables, dont les pensées diffèrent absolument des nôtres. En fin de compte, ces pensées devraient nous conduire à la joie parce qu'elles ont conçu la croix, là où se rencontre sa justice, mais aussi sa colère. Je répète, ces pensées devraient nous conduire à la joie parce qu'elles ont conçu la croix. C'est là où se rencontre sa justice, la justice de Dieu, mais aussi sa colère. Auriez-vous pensé à sauver des pécheurs en envoyant votre fils sous une forme humaine? Auriez-vous pensé à entrer dans la création en utilisant le corps d'une jeune femme juive et en ayant une mangeoire pour berceau? Auriez-vous pensé à laisser les êtres que vous avez créés torturer votre fils, lacérer sa chair à coups de fouet et ensuite planter des clous dans ses mains et ses pieds? Si vous êtes un père ou une mère, Pouvez-vous imaginer une telle chose? Je suis quasiment certain que je n'aurais jamais fait cela si j'avais été Dieu. Finalement, vous êtes bien content que je ne sois pas Dieu. Croyez-moi, c'est vrai. Quelle arrogance, oui, quelle arrogance, de choisir parmi toutes les vérités incompréhensibles celle que nous acceptons ou non. Personne n'a envie de refuser le projet rédempteur de Dieu, même si certains de ses aspects nous échappent. De même, nous ne pouvons pas ignorer son projet punitif simplement parce que certains aspects ne passent pas. Ce serait soumettre ses actes à notre propre jugement, ce qui est complètement ridicule de la part des morceaux d'argile que nous sommes. Il ne s'agit donc pas de rester indifférent face à nos expériences douloureuses. Dieu attend que nous luttions. Il sait que nous serons un jour ou l'autre confrontés à la douleur. Puisque la vie nous inflige des coups durs, rien de plus naturel d'humain que de pleurer, lutter et crier parfois de désespoir. Le Seigneur nous lance cet appel. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, verset 5. Du reste, Jésus lui-même l'a fait. Notez Saint Jean, chapitre 11, verset 35. Prenons l'exemple de Job. Job était littéralement la personne la plus juste au monde. C'est la Sainte Bible qui le dit. Il a pourtant énormément souffert. En un seul instant, le Seigneur lui a tout repris, sa propriété, ses biens et même sa famille. Et comme si ce n'était pas suffisant, il a permis que Job souffre d'une maladie physique dont la douleur était insupportable. Sa peau s'est recouverte de croûtes et suintée de pu. Ses os brûlaient comme le feu et son corps tout entier s'est trouvé déformé. Évidemment, Job a exigé quelques explications. Il méritait bien d'être informé de ce que Dieu faisait. Il avait toutes les raisons de s'asseoir avec Dieu pour que ce dernier lui explique deux ou trois choses. Ah oui, vraiment. Repensez un peu au potier et à l'argile. Chers amis, Job a eu la possibilité d'entrer dans la salle d'audience et de plaider sa cause. Mais il a vite compris qu'il était impossible de faire venir le Seigneur à la barre pour le bombarder de questions. En fait, c'est lui qui s'est retrouvé sur la sellette et Dieu lui a reproché de se croire plus malin que son Créateur. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Job chapitre 38, verset 4. « As-tu perçu toute la largeur de la terre ?» Déclare si tu sais tout cela. Job 38, verset 18. « Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? » Job chapitre 40, versets 7 et 8. Donc le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Notez Job 40, verset 2. Autrement dit, l'argile dira-t-elle au potier, « Pourquoi m'as-tu fait cela ?» Et si l'Éternel, dont la sagesse et la justice dépassent de loin notre compréhension, avait décidé d'accabler Job de souffrance sans ressentir le besoin de lui en expliquer la raison. Avez-vous envie d'aimer un Dieu qui agit ainsi? Pourriez-vous aimer un tel Dieu? Croyez-le ou pas? Eh bien, Job l'a fait. Après être sorti du box des accusés, Job, bien qu'il n'ait pas reçu de réponse à ses questions, s'est accroché davantage au Seigneur. Sa réaction est absolument remarquable. Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, verset 5. Autrement dit, auparavant, Job connaissait Dieu de loin, il avait entendu parler de lui, mais désormais, après avoir été éprouvé et s'être accroché à lui, quand rien n'avait de sens, il le connaissait d'une manière bien plus intime. Maintenant, mon œil t'a vu. Il en a alors tiré l'enseignement essentiel. L'important n'est pas de comprendre tous les mystères de Dieu. L'important, c'est de l'accepter et de l'aimer, même quand nous ne comprenons pas pourquoi il agit de la sorte. S'il est une personne qui aurait eu toutes les raisons de ne pas aimer un Dieu qui a permis cela, c'est bien Jérémie. Il est clair qu'il a eu ses moments de doute. Il a même failli remettre en question la justice de Dieu. Mais au travers de tout cela, à travers les larmes, la douleur, la confusion, la colère et le doute, Jérémie s'est accroché à la fidélité et à la bonté de Dieu, même quand il n'avait pas l'impression qu'il était particulièrement bon. Notez par exemple Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 23, où il est dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Lamentations, j'ai dit, chapitre 3, versets 21 à 23. Donc, en pleine douleur et en pleine confusion, Jérémie s'est accroché au fait que Dieu était Dieu et lui pas. Il a laissé le potier être le potier et a compris qu'il était que l'argile. Chers amis, voyez-vous, la pensée de l'enfer, cela paralyse la plupart d'entre nous. Et voilà pourquoi nous nions souvent son existence. En tout cas, officiellement. D'ailleurs, comment peut-on vivre en gardant constamment à l'esprit l'existence d'un tel endroit de feu et de tourment? C'est bien là l'enjeu. Quelque chose doit changer dans notre vie. Un sentiment d'urgence face à la réalité de l'enfer doit renouveler notre passion pour l'Évangile. À la manière de l'apôtre Paul, sachant ce que est la crainte du Seigneur, il persuada les gens de croire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Ne nous contentons donc pas de composer avec la question de l'enfer, mais laissons plutôt cette question, au même titre que les autres doctrines, de nous pousser à vivre différemment. Je répète, de nous pousser à vivre différemment. C'est précisément la remarque de l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre. Il décrit le retour du Seigneur, le jour du jugement et la destruction des méchants. Et qu'en conclut-il ? Eh bien, nous invite-t-il, je vous le demande, à lever les bras au ciel de désespoir, parce que de toute façon, nous ne pouvons rien faire. Eh bien non. Jérémie a l'intelligence de s'exclamer ainsi. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Voyez-vous ? Donc, c'est ça que pas seulement Jérémie et beaucoup d'autres prophètes, mais nous revenons à l'apôtre Paul. C'est ça que l'apôtre Paul a compris. Et à la lumière de cette vérité-là, nos vies et nos églises devraient être libérées de leur asservissement au péché et regorgées d'un amour désintéressé pour notre prochain, pour le décourage. Oui, pour, on peut dire, pour l'étranger aussi. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons apprendre à avoir de l'amour, c'est ça que je voulais vous dire, et de l'amour désintéressé pour notre prochain, pour ceux qui sont découragés, ainsi pour l'étranger, comme je l'ai dit. Et n'oublions donc pas que son éternité est totalement en jeu, c'est-à-dire en d'autres termes. Arrêtons un peu de justifier l'enfer et proclamons la solution que le Seigneur y apporte. Oui, le Seigneur apporte un défi bien plus grand. La déclaration radicale de l'apôtre Paul se trouve en Romains chapitre 9 et révèle ce qui se cache derrière son incroyable carrière missionnaire. L'apôtre Paul dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes. » C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 9, versets 2 et 3. Vous avez bien lu. L'apôtre Paul souhaitait être maudit ou même envoyé en enfer pour que ses compatriotes juifs puissent vivre. Ça, c'est complètement fou. Je ne sais pas quoi faire de ça. Je n'ai aucune envie que des gens aillent en enfer. Mais quant à y aller pour quelqu'un d'autre, ça, c'est encore une autre histoire. Je déteste donc l'idée que des personnes de mon entourage puissent se retrouver en enfer. Mais j'avoue que je ne vais pas jusqu'à éprouver une grande tristesse et un chagrin continuel. Même si l'apôtre Paul avait des choses effrayantes à dire au sujet de la destinée éternelle de tous ceux qui rejettent Jésus, il aimait ces personnes comme un dingue. Oui, car il se vouait corps et âme pour les voir réconciliés avec Dieu. Il les a même suppliés de rechercher la guérison et le salut que seul Jésus pouvait offrir. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Oui, sur cette croix où Jésus est mort, la colère de Dieu a été satisfaite. Mais réfléchissez à ce couplet. Jésus a satisfait la colère de Dieu. C'est sur lui qu'elle est tombée. Et c'est de cette colère-là que Jésus, l'apôtre Paul, Jude, Pierre et Jean ont parlé et sur laquelle ils ont écrit avec tellement d'éclat. Oui, c'est cette colère-là qui s'est déversée à cause de nos péchés. C'est cette même colère qui sera finalement satisfaite, que ce soit en enfer ou sur la croix. Nous la méritons, Christ l'a endurée pour nous. Comment est-il possible de se retenir et d'exploser de joie? La doctrine de l'enfer peut être paralysante, mais aussi elle peut stimuler, car elle magnifie la beauté de la croix. L'enfer est la toile de fond qui règle la grâce, cette grâce profonde et incroyable de la croix. L'enfer amène à la lumière l'énormité de notre péché et dresse ainsi par conséquent le portrait de la faveur de Dieu envers nous, totalement immérité. En effet, Christ a librement choisi de prendre sur lui-même, toute la colère que je mérite pour que je puisse vivre en présence de Dieu. Comment ne pas chanter? Comment ne pas crier et proclamer son amour indescriptible? Chers amis, finalement, êtes-vous vraiment certains? Dire tout ce que je viens de dire sans au moins vous poser la question n'aurait absolument aucun sens. Oui, je répète, êtes-vous certains d'être totalement unis au Dieu qui peut vous sauver de l'enfer? Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'enfer. L'Évangile est bien plus profond et plus merveilleux que ça. Il est toutefois normal, vu notre discussion, que je vous demande si vous êtes absolument certain de ne pas aller en enfer. Et c'est valable pour tout le monde, que vous soyez pasteur, responsable, en recherche, sceptique, eh bien personne ne sait ce que vous pensez en cet instant. Baissez donc la garde et prenez le temps de régler honnêtement cette question. Le connaissez-vous vraiment, Jésus, votre Sauveur? Avez-vous trouvé votre assurance en lui? Je ne sais pas à quoi ressemble votre vie à vous, ni quelles difficultés vous avez affrontées. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'enfer. Je ne sais pas non plus si, par le passé, des gens vous ont peut-être agressé ou agacé. Tout ce que je sais, c'est que ce que je comprends de l'Écriture sainte, que l'enfer est un lieu bien réel pour tous ceux qui choisissent de rejeter Dieu. Mais n'imaginez pas que Dieu se délecte à l'idée d'envoyer une misérable créature en enfer. C'est tout à fait le contraire. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? C'est ce que déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et de vivre? Je répète, n'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et de vivre? Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, et notez le chapitre 33, verset 11 du livre d'Ézéchiel. Nous sommes donc tous face à un choix, celui de la vie ou de la mort. Dieu vous invite à changer de voie et à vivre. À Lystre, l'apôtre Paul s'est adressé à la foule et là il a dit, nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est. Actes, chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 17. Encore une fois, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que le Seigneur a fait dans votre vie, mais je sais que pour vous, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est. L'apôtre Paul dit que chacun et chacune d'entre nous connaît la vérité au sujet de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 25. Vérité face à laquelle il vous appelle à répondre par l'amour, à vous tourner vers lui, à l'accepter, à lui faire confiance, à placer votre foi en lui, à accepter l'incroyable cadeau de la croix. Oui, là, Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions pour nous offrir par pure grâce la vie, la guérison et la rédemption. L'apôtre Paul nous presse d'être réconciliés avec Dieu qui nous aime plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Peut-il y avoir une meilleure conclusion à ces paroles-là? Voyez-vous, il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, notez les versets 20 et 21, et notez aussi le chapitre 6, toujours de 2 Corinthiens, verset 2. Il est dit, nous supplions au nom de Christ, dit Paul, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voici maintenant le jour du salut. Je répète, afin qu'en lui, en Jésus-Christ, nous devenions justice de Dieu. Dieu offre donc sa miséricorde à tous maintenant. Il souhaite que nous le connaissions maintenant. Il nous presse tous maintenant d'être réconciliés avec lui par son Fils Jésus-Christ. Maintenant, la porte est ouverte, mais, elle ne le restera pas toujours ouverte. Avez-vous bien entendu ce que je viens de vous dire? Pour terminer cette dernière étude, deuxième partie sur l'enfer, puisque vous pourrez trouver sur Internet la première partie sur l'enfer et le ciel, ainsi que le fabuleux témoignage de Marietta. Voici maintenant certaines questions qui sont très souvent posées. Premièrement, faut-il prendre au sens littéral les images de feu, de ténèbres et de ver qui ne meurent jamais? L'image la plus employée pour décrire l'enfer est celle du feu. Jésus, par exemple, le décrit comme la fournaise de feu. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 42. Le feu éternel. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 8. Et l'endroit où le feu ne s'éteint pas. Saint Marc, chapitre 9, verset 48. De même, Saint Jean, dans le dernier livre dit Offenbarung, c'est-à-dire l'Apocalypse, Saint Jean le dépeint comme l'étang de feu où le soufre tourmente à jamais. Apocalypse chapitre 14, versets 10 et 11, et notez le chapitre 20, versets 10 et le verset 15. Alors, faut-il prendre ces images au sens littéral? Eh bien, tout cela est très délicat. Et il est possible que nous n'ayons pas l'absolue réponse parce que nous ne connaissons pas tout. La plupart des chrétiens évangéliques qui, eux, croient en un enfer réel et qui durerait pour toujours, n'interprètent pas l'image du feu d'une manière littérale. Par exemple, des personnalités tout de même, telles que Jean Calvin, Martin Luther, C.S. Lewis, Billy Graham, Don Carson, James Packer et Sinclair Ferguson la prennent tous au sens figuré. Cette thèse est étayée par plusieurs passages dans lesquels l'idée d'un véritable feu serait en contradiction avec les autres propos de l'auteur. Jude, par exemple, décrit l'enfer d'abord comme un feu éternel. Jude, verset 7. Puis, 6 versets plus loin, Jude le nomme l'obscurité des ténèbres. Jude, verset 13. Jésus et Jean-Baptiste décrivent tous les deux l'enfer avec des images de feu. Saint Matthieu, chapitre 3, versets 10 et 12, chapitre 25, verset 41, et de ténèbres, selon Saint Matthieu, chapitre 8, verset 12, chapitre 22, verset 13, et ajoutez le chapitre 25, verset 30. Eh bien, ces deux métaphores sont clairement opposées, car là où il y a des feux, il y a normalement pas de ténèbres. Alors le mélange de ces métaphores laisse penser que ces images ne sont justement que cela, des métaphores. La déclaration de Jésus en Saint Matthieu chapitre 25, verset 41, soutient cette idée. L'enfer, dit-il, a été créé pour le diable et ses anges qui sont des esprits. Alors, j'ai une question, et je n'ai pas toute la réponse, je vous l'ai déjà dit, c'est impossible. Comment le feu, au sens littéral, pourrait-il agir sur de telles créatures qui sont immatérielles? Les passages examinés dans la Sainte Bible sont clairs quant à l'existence réel d'un enfer. Ça, c'est donc clair et net. C'est un lieu de tourment pour les ennemis de Dieu. Mais la Sainte Bible ne nous précise pas exactement en quoi ce ou ces supplices consisteront. Deuxièmement, existe-t-il des degrés de châtiment en enfer? Certains souffriront-ils plus que d'autres? La Sainte Bible suggère l'idée de châtiment de différents degrés. En effet, Jésus a dit dans Saint Matthieu chapitre 11, verset 24, le jour du jugement, les pays tels que Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement que toi. Le toi, cela fait ici référence à ceux qui ont été témoins des œuvres de Christ. Jésus raconte en Saint Luc chapitre 12 une parabole au sujet de serviteurs désobéissants, punis pour leurs mauvaises actions. L'un est mis en pièces, un autre reçoit un grand nombre de coups, alors que le dernier ne reçoit que peu de coups, selon les versets 46 à 48 de Saint Luc chapitre 12. Donc, si cette parabole s'applique au châtiment en enfer, alors elle affirme qu'il y aura différents degrés de souffrance. L'apôtre Paul évoque aussi cette idée quand il écrit que les non-croyants sont en train de s'amasser un trésor de colère pour le jour du jugement. Romains chapitre 2 verset 5. L'Écriture sainte n'est pas totalement claire sur toutes ces questions, mais certains passages semblent indiquer différents degrés de châtiment en enfer. Troisièmement, l'enfer est-il au centre de la terre? Certains juifs du premier siècle et de nombreux chrétiens du Moyen Âge auraient répondu par l'affirmative. Des livres comme « L'enfer de Dante » le suggèrent bel et bien. Les théories d'ouvrages aussi répandues que « L'enfer de Dante », largement propagées dans de nombreuses cultures, peuvent se révéler dangereuses, car rien dans la Sainte Bible ne permet de localiser très clairement l'enfer qu'il serait au centre de la terre. L'Ancien Testament explique effectivement que quand les gens meurent, ils descendent au séjour des morts. Genèse chapitre 37, verset 35. Mais le séjour des morts n'est pas forcément l'enfer. Le verbe descendre est une figure de style, pas une désignation géographique. Nous avons également vu que l'enfer est destiné aux méchants après le jour du jugement. Je répète, après le jour du jugement. Autrement dit, personne ne s'y trouve à l'heure actuelle. Les gens sont peut-être dans le Hadès, Saint Luc chapitre 16, mais cet endroit, tout comme le Sheol, est un lieu d'attente du jugement. Le séjour des morts n'est donc pas l'enfer. Suivons plutôt le conseil de Chrysostome. C'était l'un des pères de l'Église. Ne nous préoccupons pas trop de l'endroit où se trouve l'enfer, mais préoccupons-nous plutôt de la façon d'y échapper. En dehors de cela, nous ne savons rien d'absolu de sa localisation. Quatrièmement, le mot Sheol dans l'Ancien Testament fait-il référence à l'enfer? La réponse tout simplement est non. Le Sheol ou le Hadès n'est pas l'enfer. Ce terme, souvent traduit par fosse ou par tombe, est difficile à comprendre. Il est employé 65 fois dans l'Ancien Testament. Il décrit le lieu où les justes, selon la Genèse chapitre 37, versets 35 et 42, chapitre 42, verset 38, et ajoutez Ésaïe chapitre 38, verset 10 et les versets 17 et 18, et où les méchants, notez Nombre, le livre des Nombres, chapitre 16, verset 30, et ajoutez Ésaïe, chapitre 14, verset 19. Vont donc là, est-il dit, après la mort. Les justes et les méchants vont là, après la mort, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont absolument au même endroit. Rappelez-vous Lazare et l'histoire de Abraham. Tout cela nous montre que nous devons quand même faire attention et de ne pas dire n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont, je répète, tous au même endroit. Voyez-vous, le sens du mot « Sheol » varie beaucoup, car il ne désigne pas spécifiquement une destinée précise, soit des justes ou soit des méchants. Voyez-vous? Donc, encore une fois, faisons attention. Nous pouvons tous, tout au plus, dire que Dieu a vraiment révélé à Ézéchiel que les méchants seraient punis d'une manière ou d'une autre après la mort. Ça, c'est vrai. Et en dehors de cela, nous devons être particulièrement prudents dans notre interprétation. Cinquièmement, qu'en est-il de celles ou de ceux qui n'ont jamais, jamais entendu l'Évangile? C'est une question très, très difficile. On peut dire que tout cela survient dans quasiment toutes les études bibliques d'aujourd'hui. Qu'en est-il de l'homme qui, vivant, par exemple, au fond de la jungle, et qui n'a jamais, jamais entendu l'Évangile, et n'a donc jamais eu l'opportunité d'accepter Jésus? S'il a seulement été sensible à la lumière qu'il a reçue, il est possible. S'il a vécu du mieux qu'il pouvait, et que s'il aurait entendu l'Évangile, il aurait probablement accepté Jésus-Christ. Dieu sauvera-t-il ce genre de personne? Eh bien, tout en moi a envie de répondre oui. Parce que c'est la réponse qui paraît la plus logique. Oui, ce oui-là semble d'être la réponse la plus juste. Mais bien entendu qu'il y a un problème, car dans l'Écriture sainte, aucun passage n'affirme qu'il serait possible d'être sauvé en dehors de la foi en Jésus-Christ. Alors, l'Écriture sainte enseigne que la lumière que nous avons tous reçue au travers de la création, celle que les théologies nomment révélation générale, pourrait être suffisante pour condamner, mais pas pour sauver. Autrement dit, tous les hommes, simplement en regardant la création, ont la possibilité de constater qu'il existe un Dieu. On dit sauvage, j'aime pas beaucoup ce mot, mais il y a des peuplades primitives qui respectent la nature d'une façon beaucoup plus que nous, qui voient dans la nature la main de Dieu. Mais la Sainte Bible affirme que sans moyen de connaître le nom ou le plan rédempteur de Dieu, certains n'accueillent pas cette lumière. Alors l'apôtre Paul en parle très clairement dans le livre des Romains, au chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 22, et je voudrais vous demander, chers amis, de lire vous-même très attentivement cette indication de Romains chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 22, et de prier et que le Saint-Esprit vous montre pour bien comprendre cet endroit précis. Donc, d'après ce passage, tous ont reçu, en quelque sorte, la lumière, la connaissance générale de l'existence de Dieu. Les gens l'ont pourtant, malgré tout, la plupart, heureusement pas tous, ont rejeté. Et ces gens-là sont donc, évidemment, sans excuse. Ce passage enseigne que tous sont condamnés, non pas parce qu'ils ont rejeté l'Évangile seulement, mais parce qu'ils ont rejeté la révélation générale accordée à tous les hommes. L'Écriture sainte elle nous apprend qu'il nous faut parvenir à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ pour pouvoir être sauvé. Donc, le Seigneur peut toutefois, il peut la révéler de différentes manières, par des rêves, par des visions, ou encore par des pensées divinement inspirées. Il peut faire cela, Dieu, à l'homme au fond de la jungle ou ailleurs. N'oublions pas que dans l'Écriture sainte, les gens sont généralement sauvés par l'intermédiaire d'un message humain. Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Et Romains chapitre 10 indique bien que Dieu sauve à travers la prédication de l'Évangile. C'est vrai qu'il se sert de rêves et de visions pour atteindre certains. Notez Galates chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 16. Mais ne croyons pas que nous pouvons simplement nous reposer sur ces moyens-là, car à l'heure actuelle d'aujourd'hui, il y a, paraît-il, environ 1,5 milliard de personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Il est donc de notre responsabilité à nous d'aller vers eux. Le Seigneur le dit très clairement. Nous pourrions encore poser des tas de questions sur le sujet, mais au final, nous devons tout simplement croire ce que la Sainte Bible enseigne et ne pas aller au-delà. Face à toutes ces questions très difficiles, laissons Dieu être Dieu et croyons que le juge de toute la terre appliquera le droit. Genèse chapitre 18, verset 25. C'est ce que nous pouvons faire de mieux. Je voudrais simplement vous dire qu'il est possible, quand nous arriverons au ciel, j'ai dit il est possible, que certains que nous pensons qui devraient y être absolument ne s'y trouveront pas, et que certains que nous avons jugés de impossible de s'y trouver pourraient s'y trouver. Ça sera la surprise. Sixièmement, entre sa mort et sa résurrection, Jésus serait-il allé prêcher en enfer? Eh bien, l'apôtre Pierre affirme que Jésus est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 3, versets 19 et 20. Ça, c'est un passage plutôt étrange, mais il ne signifie en aucun cas que Jésus prêchait l'Évangile aux non-croyants décédés, pas du tout. Le mot « esprit », quand il est employé sans qualificatif, par exemple « de l'homme », désigne des êtres surnaturels, bons ou mauvais. Saint Matthieu chapitre 12, verset 45, notez Saint Luc chapitre 10, verset 20, et ajoutez Hébreux, chapitre 1, verset 14. Donc, l'apôtre Pierre précise que ces esprits étaient désobéissants à l'époque de Noé. Cela fait probablement référence à un autre passage assez étrange de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Qui nous dit que des anges déchus, quand il y en avait, ont vraisemblablement eu des relations sexuelles avec des femmes et ont pour cela été enchaînés par Dieu? Notez la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, et Jude, verset 6. Je suis sûr que ce point soulève de nombreuses autres questions. Dans tous les cas, il semble que ici, en la première épître de Pierre, chapitre 3, Jésus se soit rendu dans cette prison des anges et y a proclamé à la lumière de la croix la victoire, je répète, la victoire sur ces terribles démons qui étaient totalement désobéissants. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il semble que Jésus n'a donc pas prêché l'évangile aux non-croyants en enfer, du moins pas au sens évangélique du terme. Et pour terminer totalement, septièmement, comment Dieu peut-il être amour et tout de même envoyer les gens en enfer? Ça, c'est une question sur laquelle, depuis des siècles, de nombreux théologiens intelligents ont débattu. C'est, entre autres, cette question qui a poussé Origène, l'un des premiers responsables de l'Église, à croire que tous les hommes finiraient un jour ou l'autre au paradis. Il était persuadé que l'amour de Dieu l'exige. Dieu peut-il être amour et tout de même envoyer des gens en enfer? Si les arguments que j'ai avancés dans ces études sont corrects, alors nous devons répondre oui, et cela pour plusieurs raisons. Dieu est amour, on est d'accord, mais c'est tout de même lui qui définit ce que est l'amour agapé, le vrai amour. Nous n'avons pas la permission de le définir d'après nos propres normes et nos sensibilités. Nous imaginons souvent que aimer, c'est rendre les autres le plus heureux possible. Si c'était ça, alors oui, l'enfer serait incompatible avec l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas la définition qui est donnée par l'Écriture sainte. L'amour fait partie de l'identité de Dieu. Et Dieu définit ce que est vraiment l'amour. Dieu n'a pas besoin de sauver tout le monde pour manifester son amour. Il n'a pas besoin de sauver ceux qui sont affreux, ceux qui font croire que si vous faites sauter un hôpital ou une école où il y a des enfants innocents et que vous êtes un kamikaze et qu'on vous fait croire que vous irez au ciel pour avoir des nombreux anges merveilleux autour de vous, ça sera peut-être une mauvaise surprise pour certains. En d'autres termes, l'amour de Dieu est enveloppé dans son caractère. Bien que selon nos critères à nous, le Seigneur agisse parfois d'une manière qui semble manquer d'amour. Il n'en est absolument rien. Et ce sont ceux-là qui comptent, voyez-vous. Donc pensez aux êtres qui sont tourmentés en enfer, cela, bien entendu, nous fait et me fait souffrir. Ne minimisons donc pas cette douleur et n'enfouissons pas non plus nos émotions pour nous empêcher d'aller de l'avant. Souvenons-nous du chagrin de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9, versets 2 et 3. Notre Seigneur, il est le Créateur tout-puissant et plein de sagesse de tout l'univers. Ce qu'il fait est juste, est droit et plein d'amour. D'une manière qui dépasse absolument et de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Accrochons-nous donc aux paroles d'Abraham qui lui dit que celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? Genèse chapitre 18, verset 25. Nous allons terminer ici. Et rappelez-vous, c'est ce que l'Esprit Saint me dit encore de vous répéter. Jésus menace même de l'enfer ceux qui maudissent leurs frères et sœurs, selon Saint Matthieu chapitre 5, verset 22. Donc attention de ne pas démolir votre frère ou sœur en Christ, simplement parce qu'ils n'ont pas à 100% le même point de vue sur certains points que vous-même. Voyez, suivant comment vous jugez votre frère ou votre sœur, vous prenez donc le risque, si vous êtes sans aucune compassion, de vous retrouver peut-être ailleurs qu'au ciel. En terminant cette deuxième série concernant l'enfer, le Seigneur, par son Esprit Saint, m'a mis dans le cœur de faire une série ensuite, donc à partir de demain, Dieu voulant, pour nous aider à modifier notre comportement envers nos frères et sœurs qui ne font pas tous partie des communautés telles que les darbistes ou ceux de l'Église baptiste. Voyez ? Donc faisons attention à tout cela. Maintenant, je voudrais vous demander de prier ensemble. Et je voudrais vous demander, si c'est possible, que vous essayiez de prier cette prière que le Seigneur m'a donnée pour vous, de la prier avec moi dans votre cœur, en la répétant dans votre cœur. Ou si vous voulez, vous pouvez la répéter à haute voix comme vous voulez. Prions donc. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que j'ai péché contre toi. Je suis condamné par ta loi à la mort éternelle, car ta parole dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que j'étais coupable du péché, j'étais séparé de ta présence, j'étais perdu et j'étais indigne de ton amour. Je ne pouvais pas m'approcher de toi sans ce terrible sentiment de culpabilité. Mes péchés et mon incrédulité me condamnaient. Mais je comprends maintenant que Jésus est mort sur la croix pour moi. Oui, il a souffert à ma place. Je sais que nul crime ne peut être puni deux fois. Quand une dette est acquittée, cette dette n'existe plus. Il n'y a pas lieu de la payer une deuxième fois. Rien ne me sépare désormais de toi. Maintenant, Jésus-Christ vit enfin en moi. Par l'Esprit Saint, je peux paraître devant toi sans aucun sentiment de culpabilité, puisque tu m'as pardonné, tu m'as admis dans ta famille royale. Je suis maintenant ton enfant, tu es mon père, ta justice est maintenant la mienne, ta vie et ma vie. Ta nature est la mienne. Je suis à toi. Mes péchés ont été mis au compte de Jésus-Christ et il en a payé le prix. Sa justice est mise à mon compte et je suis enfin né de nouveau. Je me réjouis maintenant de l'abondance de ta justice que tu m'as donnée maintenant, à cet instant même. Amen. Amen. Et chers amis, soyez bénis, car vous qui avez accepté la main tendue de Jésus-Christ et que vous êtes maintenant sauvés, rappelez-vous que Dieu le Père et Jésus-Christ vous aiment au-delà de tout entendement, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et je peux même vous dire, tout de même, j'ai le droit de le dire puisque j'ai 90 ans que le Seigneur m'a renouvelé, m'a tiré d'affaires, de choses et de situations parfois terribles où j'étais plusieurs fois entre la vie et la mort. Attention. Je reconnais que c'était le plus souvent de ma faute. Et il m'a quand même sorti de là jusqu'à maintenant. Il peut le faire pour vous. Si quelqu'un parmi vous qui avez écouté se trouve malade, vous avez le droit de prier pour votre guérison, pour demander que le Seigneur vous vienne en aide. C'est écrit, et je l'ai expérimenté, et je l'ai surtout même pas mérité. Or, presque aucun ou aucune d'entre vous n'a été aussi affreux que je l'ai été autrefois. Donc, il y a vraiment de l'espoir pour vous, n'est-ce pas? À bientôt! Et la nouvelle série, Dieu voulant, demain, il n'y aura pas beaucoup de versets bibliques, non, non, mais ce sera plutôt pour vous aider à apprendre à nous aimer les uns les autres, que nous sommes parfois si différents. Par exemple, surtout de nos jours, il y en a qui ont appris à Calais, à Paris. Il y a des gens qui ont appris qu'il y a des gens d'autres cultures, d'autres couleurs que la leur. Et on apprend beaucoup de choses parce que le malheur n'a jamais autant été connu comme aujourd'hui. La Bible dit il y aura des tremblements de terre. Il y aura en certains endroits des chaleurs terribles, des endroits qui brûlent, d'autres endroits où il pleuvra beaucoup trop, des inondations. Il y aura des choses vraiment à ne pas souhaiter à son pire ennemi. Mais c'est pour secouer toute notre humanité pour que nous puissions faire volte-face, tourner 180 degrés sur nous-mêmes et pour nous décider une fois pour toutes pour celui qui est mort à la croix pour nous sauver. Au revoir.